Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Comme un bruit qui court.
Qui vont-ils ?
Dans le monde numérique, comme dans le vieux monde analogique, une heure de reportage dans tous les sons et dans tous les sens.
Au sommaire de cette quatrième émission, 1000 vaches, des miliciens, des maquisards et un projet de loi antiterroriste.
Charlotte Perry.
De l'agrobusiness au cyber-djihadiste, en passant par les autonomistes bretons, une heure à feu et à son sur ceux qui nous menacent.
Comme un bruit qui court, nous sommes en direct du studio 611 de la Maison de la Radio.
Antoine Chao.
Une heure ensemble pour prendre le temps de comprendre.
Moi, je suis paysan et j'ai pas envie de faire le BTP. Michel Ramry, il ferait très bien le BTP. On lui demande pas de devenir agriculteur.
L'Europe est une cible, et la France plus encore, parce que nous incarnons tout ce que l'ennemi veut abattre.
Je sais pas, il faut défendre la Bretagne, il faut défendre la France.
Alors, qui nous menace le plus ? Les 1000 vaches, les autonomistes bretons ou les cyber-djihadistes ? Ou comment, pendant que les uns s'activent dans la Somme contre une usine à lait et ses 1000 ruminants, au cœur de la Bretagne, de vieux résistants se battent contre ceux qui veulent réécrire l'histoire de la collaboration pour préparer leur avenir dans la grande Europe de demain. Mais pendant ce temps, nos élus unanimes lancent l'assaut contre les terroristes 2.0 cachés dans l'Internet, au risque d'écorner certaines de leurs libertés numériques. Bref, comme un bruit qui court, choisissez votre menace et en avant pour la castagne.
Antoine Chao,
Charlotte Perry,
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Samedi dernier, l'association Novicen, acronyme de Nos Villages se soucient de leur environnement, et le syndicat agricole La Confédération Paysanne organisaient le blocage de la ferme-usine des 1000 vaches, à Druca, dans la Somme, pour empêcher l'arrivée des 150 premières vaches à lait de ce méga-projet agro-industriel. Mardi dernier, le 9 septembre, donc après 3 jours de blocage, une réunion de crise est organisée au ministère de l'Agriculture entre les différents protagonistes. De retour à Druca, sur le projet de la ferme-usine, sur le blocage, les militants de l'association Novicen, dont le président Michel Foury, rendent compte.
On a gagné la bataille politique d'imposer une réunion au ministère de l'Agriculture sur ce sujet-là. On a gagné la bataille de mobilisation. On a gagné la bataille, mais la guerre continue. Et voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut encore la parole ? Alors, je sais pas, on peut lever la main si on est d'accord. Pour lever ce blocus, je dirais temporairement. Alors, on lève la main, ceux qui y sont favorables, s'il vous plaît.
Bravo.
Alors, si j'ai bien compris, donc on va s'orienter vers la levée du blocus. Et puis, bon, il y a des pneus à débarrasser, tout ça.
Il y a les drapeaux de la Confédération Paysanne, les drapeaux de Novicen. Alors voilà, c'est l'entrée de la ferme-usine. Chantier interdit au public, propriétaire Ramery S.A.
C'est la ferme là-bas à droite, oui. Oui.
D'accord.
Voilà. M'excuse, je range.
Ouais. Donc vous démontez la barricade, ouais.
Je donne un coup de main aux autres, oui.
C'était la barricade faite de palettes, de vieux pneus et de plots de circulation qui bloquaient l'entrée de la ferme-usine dite des 1000 vaches. Voilà. Ça, c'était la banderole de la conf, ouais.
Oui, de la Somme.
La Confédération Paysanne de la Somme.
De la Somme. Il y en a partout en France, hein, monsieur. Dans chaque département.
Et vous en faites partie ?
Moi, je fais partie du Novicen. Non, pas Confédération Paysanne.
Novicen.
Les opposants, là, tout près. Là. À 5, le premier à 500 mètres.
Ah, c'était le casse-croûte, ça. Un fromage qui a l'air excellent, là.
Ouais. Le fromage de notre collègue de la Confédération Paysanne.
Ah, d'Antoine Jean ?
Oui, c'est cela. C'est lui qui l'a fait.
La
tome d'orchis.
La tome de vache.
Brossé avec de la chicorée, un peu de bière et de la teinture de rocou. Ça donne une croûte rouge un peu plus naturelle.
Et tu es des producteurs aussi?
Alors moi je suis paysan à Nomain, près d'une ville qui s'appelle Orchis, qui est très connue avec sa chicorée le roux.
Tu veux bien te présenter?
Alors Antoine Jean, je suis paysan et porte-parole de la Confédération Nord-Pas-de-Calais. Mes parents se sont installés fin des années 80, ils ont fait une reconversion, mon père travaillait chez Peugeot. Et au départ, c'était difficile de lancer la production. Et il y a une demande. Nous, on a eu des, il y a eu des hauts, des bas, quand il y a eu des crises, par exemple en 96, première crise de la vache folle, crise de confiance, 2000, etc. Et là, il y a une demande constante qui augmente. Des nouveaux consommateurs qui arrivent. Il y avait avant, c'était consommateurs militants, mais il y a aussi des consommateurs qui ont été grugés sur un tas de crises, notamment l'année passée avec les lasagnes, tout ça. Et donc, il y a une confiance aux producteurs. Enfin, ils viennent visiter, ils goûtent les produits. Les paysans, quelque part, en transformant, alors je ne dis pas que tout le monde va transformer son produit, mais c'est un moyen aussi de se réapproprier la plus-value et de refaire le lien avec les consommateurs. Et ça, c'est important aussi. On a des chèvres, donc on transforme tout, parce qu'on est dans un rayon de collecte de lait de chèvre. Et au niveau des vaches, il y a une grosse partie qu'on transforme et une partie en laiterie, ce qui nous permet de ne pas travailler le week-end et de souffler un peu aussi. Parce que quand vous faites de la transformation, 7 jours sur 7, ça peut peser. Après, on est une exploitation familiale, où on est 4 sur la ferme, et donc on s'organise pour être remplacé. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Sinon, je pourrais pas militer.
Et combien de vaches vous avez ?
40 vaches. 40 vaches, 60 chèvres et 30 hectares. On vit correctement de notre métier. En tout cas, tous les mois, on arrive à se payer, quoi. Ça, c'est une chose qui est très importante aussi. Et on est moins soumis aux crises, aux aléas du marché, puisque c'est la remise directe à des consommateurs.
Je compte sur vous. Le 28 octobre, c'est essentiel pour la Confédération comme pour nous, pour montrer que nous sommes toujours mobilisés contre ce type d'élevage. Je compte sur vous. Nous, on préfère que ce sera des faits intermédiaires comme il existe 50, 60, 70, 100, pourquoi pas. Mais ce type-là, on ne le veut pas. Je compte sur vous. Et la meilleure preuve de soutien que vous nous le faites maintenant, c'est le 28 octobre d'être présent à Amiens. Je compte sur vous.
Vous êtes satisfait de la négociation qu'il y a eu au ministère aujourd'hui ?
Bon, on peut être satisfait déjà pour un point, c'est qu'on a délocalisé le sujet, où tout se traitait dans la Somme entre Michel Ramery et la préfecture. Et c'était important pour nous, la Confédération paysanne, et, c'était une demande de la Confédération paysanne que se passe dans les murs du ministère une négociation, puisque Stéphane Le Foll, depuis le début, il dit que ce n'est pas son modèle d'agriculture. Et c'était important que dans les murs du ministère soit décidé qu'on allait bloquer cette exploitation de 500 à 500 vaches. Alors ça ne nous satisfait pas du tout, puisque nous, ce n'est pas le modèle qu'on défend. Mais c'est un premier coin, on va dire, enfoncé contre l'industrialisation de la production laitière. Moi, je suis paysan et je n'ai pas envie de faire le BTP. Michel Ramery, il ferait très bien le BTP et on ne lui demande pas de venir dans l'agriculture. Mais aussi, Michel Ramey, aujourd'hui, c'est devenu un financier. Il a fait fortune avec le BTP. Il a fait fortune quelque part avec l'argent public, puisqu'il travaille beaucoup pour les collectivités, pour les routes, etc. Et donc, pour nous, ce qui est important de dénoncer aussi, c'est le fait que Michel Ramery s'est accaparé de dizaines, de centaines, de milliers d'hectares ici, en Picardie, et que la problématique de cet accaparement des terres, ça va à l'encontre de l'installation des paysans et notamment des jeunes qui aspirent au métier de paysan. Et le fait que sur un territoire, il y a une pression foncière qui est mise par Michel Ramery, ça pose problème pour le renouvellement des générations d'agriculture. Et enfin, moi, je n'ai pas envie, par exemple, que demain, mes enfants, s'ils rentrent dans l'agriculture, soient obligés d'aller travailler pour Michel Ramery.
Alors, le blocus est officiellement levé, comme on l'a dit, à 18h. Moi, j'aimerais savoir si on boit un coup ou pas après.
Ça y est, tu plies ?
Ça y est, je plie. Je plie.
Ça va aller ?
Ça va aller.
Ben, merci de...
Eh ben, mais merci, merci à tout, merci à la conf. On se remercie les uns les autres. Hein. Tout le monde a fait ce qu'il pouvait. Mais on avait dit qu'on partait à 18h, donc on part à 18h.
Toi, tu viens d'où ?
Moi, je viens du Berry. Je ne suis pas paysan du tout, mais je suis rentré en résistance en 2003 avec les faucheurs volontaires, justement pour soutenir les paysans, parce que c'est les paysans qui nous nourrissent, ce n'est pas M. Ramery. Et puis, en tant que citoyen et consommateur, j'ai pensé que j'avais un mot à dire là-dessus, et là, pour la même chose, quoi.
On est là depuis dimanche matin.
Vous êtes satisfaite de la décision qui est prise de lever le blocus ?
C'est la question qu'il ne fallait pas me poser. On connaît l'individu et on sait qu'il arrivera à ses fins.
Et là, vous levez quand même le blocus avec un peu donc, d'amertume, quoi.
Oui, moi je suis déçu que les militants... Moi je ne suis pas d'ici, hein. Moi je suis venu ici pour soutenir parce que j'estime qu'un autre monde est possible et que ce monde-là, ce n'est pas ce qui est en train de se préparer ici. Maintenant, de voir les militants les locaux baisser les bras aussi vite, ça me fait mal au cœur. Je crois qu'aujourd'hui, certains militants locaux ont envie de se consoler en disant « Bon, on a obtenu que le méthaniseur soit un peu moins productif, donc on a gagné. » Mais ce n'est pas une victoire, ça.
Certes, la puissance du méthaniseur est revue à la baisse et le méthaniseur perd son caractère industriel, mais l'objectif de 1000 vaches hors sol est maintenu, un grand pas pour l'agrobusiness en France. Mais la mobilisation continue, une manifestation est prévue le 28 octobre à Amiens, en soutien aux 9 militants de la Confédération paysanne, dont Laurent Pinatel, le porte-parole national du syndicat paysan, qui sont poursuivis suite au blocage du chantier ces derniers jours.
Un micro, ça ?
Alors, ça ne vous aura pas échappé, cette semaine, les Écossais ont finalement dit non à l'indépendance. Mais ce référendum historique n'a pas manqué de raviver les interrogations quant aux aspirations autonomistes d'autres régions en Europe, comme en Catalogne par exemple, ou ici en France, en Bretagne. Car dans le milieu du patronat ultralibéral breton, on réfléchit activement aux futures institutions de la Bretagne libre. Et on élabore les ministères d'une Bretagne émancipée au sein de l'Europe des régions. L'autonomie, ça se prépare. Et pour cela, une réécriture orientée de l'histoire s'impose, et notamment de cette période sombre de l'occupation, entachée par la collaboration active des autonomistes bretons avec les nazis, qui leur avaient promis l'autonomie dans le cadre du Reich. Alors pour réhabiliter le mouvement breton et minimiser le rôle des collabos, certains auteurs ont entrepris de réécrire l'histoire en criminalisant la résistance, et en particulier les résistants communistes. Et c'est pour cela, pour comprendre les enjeux de cette guerre des mémoires qui agite le cœur de la Bretagne, que je vous emmène cet après-midi à Garzonval en Plougonvert, dans les Côtes d'Armor, où le 16 juillet dernier, on commémorait les 70 ans de l'assassinat de 7 FTP résistants par les nazis, assistés des miliciens bretons.
Mesdames et messieurs, c'est au nom des anciens combattants et amis de la résistance que je m'adresse à vous. Comme chaque année, nous sommes ici à Garzonval, le jour anniversaire du massacre de nos 7 martyrs, pour commémorer leur sacrifice au service de la France le 16 juillet 1944.
On aurait perdu la moitié moins si on n'avait pas eu la milice bretonne. Parce que la milice bretonne rentrait en breton chez les gens, demandait vous n'avez pas où il y a la résistance, et les autres faisaient confiance parce qu'ils parlaient breton, et ils leur donnaient des trucs, et c'est ça qui est arrivé.
Je vais retracer pour vous les faits qui ont précédé ce drame de la résistance en Bretagne. Afin de permettre la liberté de mouvement de ses troupes, l'état-major allemand organisa une rafle monstre pour procéder à l'encerclement de la région de la Bretagne centrale. Participèrent à cette opération une section de Waffen-SS miliciens de la Bessenperrode. Les générations qui passeront en ces lieux doivent connaître l'histoire et le prix qu'il a fallu consentir pour vivre libre et en paix, dans la justice, la démocratie, la solidarité et le respect de tous les peuples. Merci.
«
16 juillet 2014. Le ciel est un peu couvert, ça sent l'orage. Et là, je viens d'arriver à Garzonval, un lieu dit tout près du petit bourg de Pougonvert, dans les Côtes d'Armor. Tout au bout de la route, on aperçoit une voie de chemin de fer. C'est la ligne qui relie Guingamp à Carré. Et là, tout en bordure de la voie ferrée, il y a une stèle qui est plantée. Sur cette stèle en pierre, il y a les noms des 7 résistants qui ont été abattus ici, le 16 juillet 44, il y a tout juste 70 ans, d'une balle dans la nuque. Tous les 7 ont été jetés dans le fossé, là, juste à côté, en contrebas de la voie ferrée, après avoir été affreusement torturés pendant plusieurs jours par les Allemands, mais aussi par les miliciens du Bézène-Perrot, ces nationalistes bretons en uniforme SS ralliés aux nazis, qui leur avaient promis l'autonomie de la Bretagne dans le cadre du Reich. Alors depuis la libération, la population de Basse-Bretagne, et de Plougonvert en particulier, se rassemble ici à Garzonval, en Plougonvert, devant cette stèle, pour commémorer cette tragédie locale, opposant miliciens contre maquisards, résistants communistes et collabos autonomistes.
Il y a beaucoup de monde qui est arrivé.
Ça arrive toujours vers 6h15, vous savez, c'est l'heure où ça afflue. Hein. Nous, on est venus en retard. Le car est obligé de se garer là-haut dans la ferme.
Vous vous appelez comment?
René Morvan, président de l'ANAC.
L'ANAC, c'est l'association nationale
des anciens combattants de la résistance. Comme anciens, nous sommes 34, quoi, c'est tout. Je suis né en 24, alors imaginez, 90 ans. Oui.
Ici, on se trouve, c'est à Garzonval. Oui. C'est un lieu dit pas très loin de Plougonvert.
Nos 6 camarades qui ont été ramassés à la rafle de Saint-Nicolas-du-Pélem ont été torturés à Bourbriac pendant 8 jours, entre le 11 et le 12 et le 16 juillet, qu'ils ont amenés là et qu'ils ont descendus là, directement là.
Dans ce fossé là qui est juste derrière nous.
Ah oui.
Vous les connaissiez, ces gens-là?
On joue au foot. À Bertorqueo, tous les copains. Là, les Allemands nous sont tombés dessus le matin, 11 juillet. J'attendais mon petit déjeuner pour aller à la ferme. Hein. Chacun son tour, vous savez, pour aller boire son lait chaud. Et puis là, il était 8h, 8h30 peut-être du matin quand ils nous sont tombés dessus.
Les Allemands?
Ah oui, bah oui. Les Allemands ou les miliciens, hein, parce qu'ils aussi ils ont été chassés par la milice aussi. Il y avait la milice avec la milice bretonne.
Ils étaient dans la cave à Bourbriac aussi, les miliciens?
Ah ben oui, c'est eux qui vont torturer, c'est plutôt eux qui vont torturer les copains que les Allemands eux-mêmes. Hein. Les Allemands parlaient breton, oui, mais ce n'était pas des Allemands, c'était des miliciens. Qui étaient...
En uniforme allemand?
Ah ben oui, ben, c'est eux qui ont fait le pire massacre. Hein. Certains quand même, à l'époque, qui avaient été déclarés miliciens, qu'on a chassés, et puis mais, qui sont partis en Irlande. Bien, vous permettez, je vais faire la porte d'affaires.
Traverse la foule. Là, vous allez prendre la gerbe de la nacre, c'est ça?
Oui, oui. Non, ça, c'est moi, ça.
C'est toi.
Alors là, il y a tous les porte-drapeaux qui sont alignés à la queue leu-leu. Les enfants qui déposent les gerbes. La commune de Plougonvert et du sénateur des Côtes d'Armor. Tout le monde se met en marche. Il y a un protocole très précis.
Garde à vous.
Albert Torqueo.
Mort pour la France.
Pierre Maillard.
Mort pour la France.
François-Marie Lebert.
Mort pour la France.
François-Louis Lebert.
Mort pour la France.
Jean-Louis Corbel.
Mort pour la France.
Pierre Sécardin.
Mort pour la France.
Des champs de blé, des champs de maïs. On est arrivé dans un petit hameau. Il y a 4, 5, 6 fermes regroupés. Alors là, je viens d'arriver à Croanec, à la sortie de Plougonvert, juste à côté de Garzonval. Et c'est là que vit Hélène Laurent. Et d'où elle était, elle a vu les camions allemands emmener les fusillés à Garzonval. Bonjour madame.
Bonjour. Dudu, ce sont mes chiens. Dudu et Pif. Ils sont gentils, oui, oui. Ça, c'était les bâtiments de la ferme. C'est longtemps, c'était la crèche des chevaux. Il y avait un cheval là-dedans. Le petit, c'est la crèche des cochons. Il y a des roses un peu partout.
C'est beau.
Derrière, c'était avant la ferme.
Vous vous appelez comment ?
Hélène. Et mon mari est décédé en 2006. Et je vis toute seule ici maintenant. Ça, on s'habitue à tout.
On se met à l'intérieur ?
Oui, oui, bien sûr. Faut que je prenne dans la rampe. Voilà. Je dis tu.
Bien
c'est
sûr.
J'ai mon habitude de le dire que on n'aime pas ce que vous voyez.
Vous avez un oiseau aussi.
Oui, une perruche. C'est ma compagne. Elle chante et bavarde. Quand il y a pas mal de gens qui arrivent, elle fait plus de bruit. Je vais aller boire un café.
Ah bah, je veux bien un petit café, oui. Je m'assois au bout de la table ?
Oui.
Merci. Hélène, je suis venue pour qu'on parle un petit peu de Garzonval.
Oui.
Vous habitez juste à côté.
Un kilomètre. Oui.
Et il y a tout juste 70 ans.
Moi, j'avais né en 26 et donc j'avais 22 ans. Le 16 juillet, nous gardions les vaches dans une lande. Puis c'était en hauteur. On a vu des camions descendre la route et au début, on ne faisait pas cas. Et puis, on les a vus qui faisaient demi-tour. Et ensuite, on a entendu des coups de fusil. Quoi. Il se passe quelque chose. Il y a une dame qui garde ses vaches au bord de la ligne du chemin de fer. Donc, quand elle a vu le manège, elle est allée chez les Coustères, qui habitent un peu plus haut à Garzonval, pour leur dire qu'il se passait quelque chose de drôle. Et le lendemain, on est allé voir. Ils étaient là dans le trou, quoi. Mais c'était pas beau à voir. Les patriotes, ces jeunes qui avaient été tués, ils avaient été blessés un peu partout, quoi, dans les coups. Puis...
Par qui, vous savez ?
Par les Allemands et puis par les comment on dit ça ?
Les miliciens.
Les miliciens, oui. Il y avait une jeune femme qui est arrivée après qu'on les a mis en bière. Et elle demande de voir son copain. Je pense que c'était son copain. Elle a sorti son mouchoir de sa poche. S'il a un mouchoir à carreaux comme le mien, c'est mon copain.
Si il avait un mouchoir à carreaux comme le sien, c'était lui. Et alors ?
Mais c'était lui.
Il avait le même mouchoir ?
Ouais, ouais. Mais enfin, c'est du passé.
Vous allez venir à la cérémonie ce soir à Garzonval ?
Oui, tous les ans, on ne peut pas rater ça. Non, c'est une obligation pour moi d'y aller. Je me dois d'aller là-bas. Sinon, ce ne serait pas bien de ma part. Tant que je pourrais aller, j'irai.
O pet koz a ya wang des on ol dem hleber.
Je vous prie, jeunes et vieux, de venir m'écouter.
Da glevet kom joukale, ezo kri de lare.
Chose dure et cruelle, ai-je à vous raconter.
Keise oazen tual dimen parous plougonver.
Voilà que sur la commune de Plougonvert,
Orim brasoa comète, quand Jude devient Hitler.
Un grand crime a été commis par les vendus d'Hitler.
Entre la
gare de Plougonvert et la gare de Pont-Melvé.
Tal village, un garçon à l'air tramène un train BMD.
Près du hameau de Garzonval, à côté de la voie ferrée.
Tramenet seis erdeneu, à Houlsten emgeri.
Passé 7 heures, il est temps de rentrer, mais un milicien du pays tire avec cruauté. Une fermière du village gardant ses bêtes au champ, entendant les fusils, reste là tremblant.
On tire gaz de sker.
Les corps de 7 jeunes gens qui gisaient dans leur sang.
Lève-t'en-nous qu'un toast, ou abéquals pour honneur.
Étaient là, fusillés, jetés dans un bas-fond en tas sanglants.
Or vous seis d'ignorant, et nos guadas ténèbres. Et bars on en douffent.
Quelle horreur de trouver ces corps jetés ainsi, dans un état atroce, et là, tout juste arrachés à la vie.
C'était encore tout chaud, ouais. Des balles qui sortaient de la nuque, là, quoi. Torturés de partout.
Les interrogatoires des nouveaux prisonniers se déroulaient avec toujours les mêmes méthodes nazies, dont la direction était confiée à un membre de la milice. Les miliciens frappaient leurs victimes jusqu'à l'évanouissement et recommençaient dès que les malheureuses victimes avaient pris conscience en espérant qu'elles passeraient à des aveux. Ainsi, ces héros de la résistance furent abattus froidement d'une balle dans la nuque, jetés au fond du ravin, recouverts de branchages.
Forêt communale Saint-Nicolas-du-Pélem. On va s'asseoir un peu à l'abri, ce qui pleut quand même. Donc Françoise Morvan, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « Milicien contre Maquisard » et qui raconte l'histoire de cette rafle du 11 juillet 1944.
Ces jeunes gens ont été raflés et les tortionnaires de ces jeunes gens étaient des miliciens du Bessonne-Pérotte, donc... Ce ne sont pas des miliciens, ce sont des soldats, ce sont des Waffen-SS bretons engagés au service des Allemands pour libérer la Bretagne du joug français. En tout cas, surtout de les libérer du communisme, œuvrer aussi pour beaucoup pour la foi, pour Dieu et pour la Bretagne. Faith and Grace, c'est le mot d'ordre du mouvement nationaliste breton. L'Église défendait l'idée d'une Bretagne pure, de race celtique, contre la Révolution française, contre les instituteurs, contre les idées des Lumières, toute une idéologie qui découle de la chouannerie. Donc certains sont allés jusqu'au bout de cette défense, c'est-à-dire jusqu'à donner leur vie pour la patrie bretonne. Ils étaient moins d'une centaine de soldats engagés, mais ça n'a pas de sens de dire ça. Parce qu'ils étaient une centaine, mais ils étaient liés à tout le reste du mouvement nationaliste. Ce qui caractérise la Bretagne, c'est le fait qu'il existe en Bretagne un parti autonomiste, ou plutôt indépendantiste, qui était complètement minoritaire, qui était honni de la population, mais qui, avec l'aide des Allemands, s'implante et qui devient un parti, mais qui n'est pas du tout une petite bande de branquignoles qui s'engage sous uniforme SS, hein. C'est un parti qui a sa presse, l'Or Bretonne, Arvor de Reparsémon, Stéren, la Dépêche de Brest. On est en présence d'un groupe puissant qui peut faire de la délation dans n'importe quelle bourgade. On ne peut pas penser le Bessonne-Pérotte comme quelque chose de séparé, mais comme une pièce de tout un dispositif allant du régionalisme jusqu'à cet engagement militaire. Maintenant, Je suis particulièrement contente d'avoir écrit « Miliciens contre Maquisards », parce que si je ne l'avais pas fait, la vérité officielle serait maintenant celle d'Yves Mervin, qui a écrit un livre qui s'intitule « Joli mois de mai 1944 », où il explique que les résistants ont fait plus de tort que les Allemands. Là, on est sur la réécriture nationaliste de l'histoire, en fonction des critères du nationalisme, c'est-à-dire du fait que nous ne sommes pas français, nous avons subi l'occupation de la France, les Bretons se sont lancés dans une défense de leur nation en prenant, ma foi, l'appui qui leur était offert, alors que les résistants n'étaient qu'une bande de truands. Les communistes étaient de toute façon des assassins, payés par les communistes staliniens et avec un projet monstrueux. Et les gaullistes étaient des usurpateurs puisque, en fait, la France était gouvernée par Pétain.
Qu'est-ce qui se passe là ? Les autorités saluent les porte-drapeaux.
Il y a le maire de Bougonvert.
Voilà. Il y a le sénateur, M. Bottrel, et Mme la conseillère générale.
Même vous êtes...
Je suis une amie de la Nacre. Et donc, à ce titre-là, je me fais un devoir de relayer ce travail de mémoire auprès des générations actuelles. Et puis, rappeler que des monuments comme ceux-là, perdus dans la campagne, correspondent à des faits bien précis, à des gens qui se sont battus pour qu'on soit libre, pour qu'on vive en paix.
Vous appelez comment ?
Brigitte Jacob.
Vous avez dû entendre parler ces derniers temps. Il y a un livre qui est sorti qui dit qu'en gros, la résistance a fait plus de tort à la Bretagne que même les Allemands et que la collaboration, que les résistants, surtout les communistes et les gaullistes aussi, étaient des criminels. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous ? C'est le train qui va passer.
Les propos de M. Mervin ne tiennent qu'à lui. Je crois qu'il en assumera la portée. Je crois que tous les gens qui sont ici aujourd'hui, qu'ils soient résistants ou familles de résistants, ne peuvent pas accepter qu'on tienne de tels propos. Je ne souhaite pas, le moment aujourd'hui n'est pas à parler du livre de M. Mervin. Aujourd'hui, c'est la commémoration pour les 7 martyrs qui sont ici.
Mais comme leur mémoire est salie par ce livre, je voulais savoir un petit peu.
C'est les propos de M. Mervin, ce ne sont pas les nôtres. Loin s'en faut.
Je voulais juste vous demander, il y a un monsieur qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps qui dit que les résistants, c'était tous des criminels.
Monsieur Mervin, moi j'ai pas lu le livre, j'ai pas envie de le lire parce que vraiment...
Oui, mais il se serait retrouvé avec quelques balles bien plombées qui leur empêchaient de nuire par la suite.
C'est facile d'incriminer des résistants, ils ont donné leur vie, la preuve. On voit partout des personnes qui ont été fusillées et tout. Et c'était des criminels.
Ça vous scandalise, des livres comme ça ?
Bien sûr que ça me scandalise. Parce que s'ils sont en vie, c'est grâce aussi à toutes ces personnes. Puis qu'on respecte au moins ces personnes. On ne dit pas des mensonges comme il a été dire. Ce sont des mensonges. Il n'a pas vécu la guerre. Il ne sait pas ce que c'est. Moi, je l'ai vécu.
Oh, Jeannot !
Pierrot !
Oh,
salut !
Bah, dis donc, ça fait au moins 35 ans que je ne t'ai pas vu.
Oui. T'as pas changé.
Alors vous l'avez compris, ce livre n'a pas été très bien reçu par les anciens résistants du Centre-Bretagne. Et évidemment, Yves Mervin, son auteur, n'était pas présent à la cérémonie commémorative pour les 7 fusillés de Garzonval le 16 juillet dernier. Il aurait peut-être lui aussi fini dans un fossé. Alors je suis allée le rencontrer ailleurs, en terrain ami.
Je suis Yves Mervin.
Donc vous êtes l'auteur de...
C'est Joli mois de mai 1944, donc la face cachée de la résistance en Bretagne. J'ai appris que la résistance bretonne avait tué quand même assez bien de Bretons.
Et ces Bretons-là, c'est qui ?
Ceux qui ont été condamnés à mort après la libération pour s'être retrouvés sous un uniforme du SD, donc du Sicherheitsdienst.
Juste... Ceux qui ont collaboré, qui étaient...
Moi, le terme collaboration me gêne un peu, parce que si vous voulez, la collaboration est une initiative du gouvernement français. Donc, je propose, moi, de s'abstenir de tout simplifier et de dire, voilà, les Pérottes, c'était des collabos.
Les Allemands ont quand même encouragé cette dissidence du mouvement nationaliste breton pour affaiblir la France. Il y avait une radio en breton, enfin, il y avait des organes de presse, il y avait l'Heure Bretonne, il y avait tout ça.
Oui, tout à fait. Qui a été encouragé par les Allemands, probablement qui a été financé aussi. Donc ça, on ne peut pas le nier. Ceci dit, c'était une protection culturelle. Si la collaboration, ça consiste à traquer les Juifs, effectivement, c'est tout à fait condamnable. Mais si ça consiste à encourager des émissions de radio en langue bretonne, moi, je trouve ça très bien. Si ça se traduit par le développement de la culture qui a été relativement prospère pendant la période de l'occupation, ben, moi, je ne trouve rien à redire à ça.
Mais les gens du Bézenperrot, oui. ils ont torturé, ils ont participé aux rafles avec les Allemands.
Alors, certains, oui. Ils étaient à Saint-Nicolas-du-Pélème.
Bourbriac.
À Bourbriac, à la cave Souriment, qui s'est terminée par Garzonval, c'est exact, oui. Certains, certainement, se sont pris au jeu, si je peux utiliser l'expression. Mais ceci dit, je pense que l'intention, c'est de protéger des militants bretons de certaines agressions de la résistance. Qui a commencé à tuer ? C'est une dimension qu'on ne perçoit pas bien dans cette époque. C'est qu'il y a un côté guerre civile qui est, à la limite, plus présent que la lutte contre les Allemands. Ces résistants qui ont tué des miliciens, à ce moment-là, ce sont là aussi des motivations idéologiques. Mais après, le véritable enjeu, c'est quand même la prise de pouvoir, tant par les gaullistes que par les communistes.
À la fin du livre, dans le chapitre « Devoir de mémoire », vous vous dites finalement que la France est une puissance occupante ici en Bretagne.
Strictement, d'un point de vue juridique, on peut défendre la thèse selon laquelle l'union de la France n'a pas été aussi harmonieuse qu'il a été dit, mais que ça a été une invasion.
Parce que vous êtes aussi à la tête du Cercle Pierre Landais,
oui,
c'est ça ?
Oui. Alors, le Cercle Pierre Landais, c'est une initiative que j'ai prise avec quelques amis de définir ce que c'est que Breton régionaliste. Donc, soit une vraie région, donc Bretagne au sein d'une république française qui aurait suffisamment évolué, ou un État membre Bretagne au sein de l'Union européenne. Ce sont deux approches qui sont finalement très proches l'une de l'autre. Et on a des ministères du gouvernement breton, du Parlement breton, de l'énergie, des aspects sociaux. Donc si on veut une autonomie, il faut d'abord définir ce que c'est. C'est ça la démarche du Cercle Pierre Landais.
C'est de préparer les futures institutions de la Bretagne autonome.
Voilà, autonome, émancipée.
Libre.
Libre, absolument, oui, tout à fait.
Je suis breton et j'en suis fier, un cœur d'acier et une âme de fer. Au Guadeloupe, j'ai fait allégeance et je t'emmerde, putain de France. Je suis breton et j'en suis fier, un cœur d'acier et une âme de fer. Au Guadeloupe, j'ai fait allégeance et je t'emmerde, putain de France.
Donc, Françoise Morvan,
il y a besoin d'une écriture orientée principalement de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour préparer le futur de la Bretagne autonome, en attendant d'être indépendante. Donc on est sur un discours ethniste à peu près permanent en Bretagne, et la réécriture de l'histoire selon des critères qui sont relativement simples, c'est-à-dire que le mouvement nationaliste a comporté une petite frange qui a collaboré, alors que l'ensemble était partisan d'une saine gestion des peuples autonomes par eux-mêmes et vers laquelle on va forcément aller, modèle de l'Écosse, modèle de la Catalogne et impulsé par l'exemple, le bon exemple donné par l'Allemagne.
Donc ce que vous dites, c'est que derrière cette écriture orientée ou réécriture de l'histoire, il y a un projet politique.
Bien sûr, mais ce n'est pas un mystique délirant. C'est quelqu'un qui travaille avec des structures qui sont liées à l'Institut de Locarne, qui regroupe quand même le patronat breton ultralibéral le plus puissant, qui a notamment organisé les fameuses manifestations des Bonnets Rouges. La conclusion du livre d'Yves Mervin, c'est ni rouge ni blanc, breton seulement. Et enfin, passons sur les clivages et regroupons-nous pour faire une Bretagne enfin riche.
Belle et prospère.
Oui, Maud des Bonnets Rouges.
Et vous, vous, dans le maquis, vous parliez français ou breton?
Ah bah bon, jamais parlé breton, hein. Non, ma grand-mère, si, mais pas avant. Pourquoi parler breton? Je suis d'accord avec la danse bretonne, la musique, le folklore, tout ça, c'est bon. Mais aller mettre des comptables à la poste, bretonnant, ou un gars sur une chaise en train d'attendre. Ah, lui, comme ça, en brésil, un petit truc comme ça, c'est complètement idiot. Il y a des mots qu'on ne peut pas s'empêcher. Oh,
je
ne
sais pas ce que ça veut dire, mais. Ah bon? Vous n'allez pas me le dire.
Non, pas vous dire. C'est pas à vous, hein. C'est pas à vous que je le dis. Hein.
On a l'ambicombe et pas de belle langue en noir, mais Mendel. Dis-montre et me stout me rend, or et vegis raguin ardent. Dis-fouet et me smeguen et un péjo en agar.
Voilà, si l'autonomie de la Bretagne, c'est un projet qui se prépare activement dans le milieu patronal breton, mais aussi à gauche ou chez les Verts, la population, bien que très attachée à la langue et à la culture bretonne, s'y est toujours opposée dans les votes. Et puis nous remercions chaleureusement Annie Ebrel qui a interprété spécialement pour nous « Les malheurs du pays », une complainte écrite en 1945 qui retrace l'histoire du massacre de Garzonval.
Comme un bruit qui court.
Comme un bruit qui court.
Antoine Chao.
Charlotte Perry.
Guy Vontil.
Toute la presse parisienne était ce mardi au Palais Bourbon pour le vote du confiance du gouvernement Valls à Kiricrac. Mais presque tous les journalistes sont repartis alors que reprenait à 21h30 et jusque tard dans la nuit la procédure accélérée de projet de loi relative à la lutte contre le terrorisme. Seuls dans le public, quelques militants des libertés numériques de la Quadrature du Net étaient là pour suivre les débats. Objectif, empêcher le recrutement pour le djihad via Internet. Mais c'est en ligne que se trouvaient les très nombreux observateurs qui commentaient en direct la retransmission sur le site de l'Assemblée nationale avec un mot dièse, mot d'ordre, hashtag PJT terrorisme. Alors, on refait le match de cette semaine législative avec l'ami Jean-Marc Manac, journaliste envoyé spécial sur Internet, qui nous emmène pour un grand reportage sur ordinateur. Mais avant cela, il faut encore trouver un ordinateur.
Donc là, c'est quoi? Tu veux qu'on aille sur Twitter?
Ouais.
Comment dire que c'est scandaleux en 2014 d'avoir par défaut Internet Explorer sur un ordinateur pour aller sur Internet?
C'est pas bien?
Non, c'est pas bien. Il faut utiliser un logiciel libre. Alors, twitter.com. Alors, ce qui est vachement bien, c'est que par défaut, donc, Live FI, c'est l'émission de Pascal Clark.
Exactement.
Donc, en fait, là, j'ai accès au compte de l'émission de Pascal Clark, vu que le mot de passe est enregistré par défaut. Donc là, je vais cliquer sur « Se connecter ». Je peux écrire que j'ai piraté le compte de Pascal... Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, mais je pourrais.
Ouais. Et tu sais quoi? On va ajouter ton compte dans les abonnements.
D'accord.
Comme ça, ils seront abonnés à toi, ils pourront avoir les informations de ton fil, que je rappelle, s'appelle...
Manhack, comme l'homme qui hack. Parce que je m'appelle Jean-Marc Manhack. Je peux écrire que j'ai piraté le compte de Pascal... Non, je vais pas faire ça. Identifier... Touche, je suis en train de taper.
Comme un bruit qui court.
Tu es un envoyé spécial sur Internet, mais comme il y a des envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire ou des correspondants permanents à Washington, moi je suis sur Internet.
Eh bien ça tombe très bien, parce que c'est exactement de tes compétences dont j'avais besoin, Jean-Marc Manhack, parce que je te propose qu'on aille refaire le match.
La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.
Suite de la discussion après engagement de la procédure accélérée du projet de loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Numéro 2110.
Merci, la parole est à monsieur Xavier Bertrand.
C'est notre liberté ou la leur. Nous avons la possibilité de protéger mieux encore. La seule qui compte, c'est la nôtre.
Et ce débat qui a couru toute cette semaine puisque c'était voté à l'Assemblée nationale. C'est un débat qui s'est poursuivi sur Internet. Il y a eu un hashtag qui a couru pendant toute la semaine, un mot dièse.
Ouais, un mot dièse qui était PJL terrorisme pour projet de loi terrorisme. C'est un projet de loi sur le terrorisme, plus particulièrement islamiste, enfin djihadiste, mais aussi et surtout un projet de loi qui étend considérablement les pouvoirs d'investigation et d'écoute téléphonique et Internet, des services de renseignement, des services antiterroristes, mais également des services de police criminelle. Les services de police criminelle n'ont rien à voir avec le terrorisme. Ce n'est pas eux qui enquêtent sur le terrorisme. Et donc les articles 10 à 15 étendent considérablement les pouvoirs d'investigation des forces de police, rien à voir avec le terrorisme.
Nous savons tous, Internet tient une part déterminante dans cette évolution qui nuit aux intérêts fondamentaux de notre nation.
Ça, c'était le point de départ de cette discussion cette semaine. C'est le constat que la France est en guerre contre le cyberdjihadisme.
Ils disent « nous sommes en guerre ».
Voilà.
On vient de nous déclarer la guerre, monsieur le ministre.
Monsieur le ministre, notre pays est en guerre.
Un ennemi nous a déclaré la guerre.
Et comme cela a été dit plusieurs fois, la France peut considérer qu'elle est en guerre contre le terrorisme.
Il va y avoir des morts avec des gens qui égorgent, qui n'hésiteront pas à vous tuer, à tuer vos enfants.
Et il va de soi que les terroristes vont attaquer, tôt ou tard, tous ceux qu'ils haïssent, et d'abord les Français.
Et donc, comme on est en guerre, eh ben on a le droit de faire exactement comme ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, mettre en place des lois d'exception.
Je crois, même si je le regrette, que nous allons vers une situation qui sera très grave et qui va nécessiter certainement des lois d'exception.
Ulysse écrit « Hashtag PJL terrorisme ». Claude Goasguen dit « Nous allons vers une situation très grave qui va nécessiter des lois d'exception ». Youpi. JP Guedas s'ajoute « Goasguen veut nous rassurer, il y a déjà eu des lois d'exception pendant la guerre d'Algérie ». Cocagne répond à 22h40, quand on sait comment ça s'est terminé, les djihadistes doivent danser la farandole.
Alors Jean-Marc Manac, si on continue à regarder avec le mot dièse PJL terrorisme, on voit la petite chronologie de ce débat-ci, parce que ce n'est pas un débat nouveau.
En fait, il résume la situation. C'est en 2009, le Parti Socialiste s'oppose à la Hadopi.
Qui pouvait surveiller qui téléchargeait quoi.
En 2011, il s'oppose au blocage administratif. Donc, au fait qu'un juge administratif puisse faire une liste noire de sites qu'on n'a pas le droit de consulter. À l'époque, c'était des sites pédophiles.
Voilà, c'est ce que voulait faire le gouvernement UMP au nom de la lutte contre la pédopornographie.
Et du temps où il était dans l'opposition, le Parti Socialiste était contre ça. Maintenant qu'il est au pouvoir, et ben le PS soutient la Hadopi.
Depuis 2012.
Et cette année, soutient le blocage administratif contre lequel il militait il y a quelques années en disant que c'était débile.
Voilà. Et ça, en moins d'une centaine de signes, c'est passé plus de 429 fois avec l'adresse de Res Marc.
Oh là, il y a Adrienne Charmé-Elix, qui est la porte-parole de la Quadrature du Net, qui est donc l'ONG de référence en matière de défense des libertés, qui retweet un tweet de Schkaen, qui est un hacker français proche de Télécomix. C'est un groupe de hackers qui est venu en soutien au printemps arabe. Donc les hackers, ce n'est pas des pirates, les hackers, c'est des gentils.
Ouais.
En parlant de terrorisme, est-ce qu'on pourrait parler d'Amesis et de Cosmos? Donc Amesis et Cosmos, c'est deux boîtes françaises qui ont fabriqué des systèmes de surveillance de l'Internet pour la Libye de Kadhafi et la Syrie de Bachar el-Assad, donc des clients quand même assez prestigieux.
Des prestataires de services en flicage d'Internet pour des dictatures.
Ouais, tout à fait.
Un autre observateur qui a suivi tous ces débats parlementaires, c'est Maître Eolas, le célèbre avocat.
Qui lui a 145 000 abonnés. Alors il a essayé de résumer le débat du projet de loi terrorisme. Nous sauverons la patrie, il n'est pas une liberté individuelle que nous sommes prêts à sacrifier.
Je voterai ce projet de loi. Ce projet de loi va dans la bonne direction.
Et nous vous soutiendrons dans toutes les mesures que vous serez amenés à prendre au-delà de la loi d'aujourd'hui.
On ne lutte pas contre le terrorisme avec une main attachée dans le dos.
Mais moi, ce que je trouve malhonnête d'un point de vue intellectuel, c'est de dire que c'est un projet de loi contre le terrorisme. Alors que non, c'est un projet de loi contre un certain nombre d'acteurs, notamment le terrorisme. Le problème, c'est que là où ils recrutent les djihadistes, c'est sur Facebook. On va faire quoi? On va filtrer Facebook? On va interdire tous les Français d'utiliser Facebook? Ça ne marchera pas, ils ne vont pas le faire. Là où ils diffusent les vidéos, c'est sur YouTube. On fait quoi? On va bloquer YouTube? Ça ne va pas le faire non plus. Bon, au Pakistan, ils ont voulu bloquer une vidéo sur YouTube, ils ont bloqué tout YouTube. Mais dans plusieurs pays. C'est-à-dire que ça s'est propagé dans plusieurs pays et plusieurs pays se sont trouvés YouTube bloqué. Donc, on sait très bien que ça ne marche pas, non seulement parce que c'est très simple de contourner la censure. Donc c'est vraiment... on se croirait sous Sarkozy, c'est-à-dire qu'on fait divers une loi, on vote quelque chose dont tout le monde sait que ça ne marchera pas, mais au moins Madame Michu, quand elle regarde le JT de TF1, elle a l'impression qu'on s'occupe d'elle.
Résultat, un autre tweet qui est passé aujourd'hui, si on peut peut-être le retrouver sur l'écran là, c'est celui qui vient du gouvernement. Gouvernement compte certifié, gouvernement FR, où on voit une carte du monde en arrière-plan et qui est bizarrement centrée sur la Syrie et l'Irak. la loi permet désormais d'empêcher les départs avec l'interdiction de sortie du territoire. Voilà, le gouvernement montre qu'il fait des choses.
Voilà, la loi dit que le terrorisme, c'est interdit. Donc, Spivoy qui dit non, la loi n'est pas encore applicable parce qu'elle n'a pas été adoptée par le Sénat. Donc, on se calme un petit peu, monsieur le gouvernement.
Ça va être en octobre prochain. D'ailleurs, il y a des mobilisations qui sont prévues à cette occasion.
Et il y a quelqu'un qui dit oui, mais en fait, pourquoi s'emmerder avec le Sénat ? C'est vrai.
Je pourrais identifier les touches que je suis en train de taper.
Rendez-vous est donc pris pour le mois d'octobre pour la discussion au Sénat. En attendant, les militants des libertés numériques, eux, affûtent déjà leurs arguments sur le site présumé terroriste animé par la quadrature du net. Merci à Jean-Marc Manhack que nous vous conseillons de retrouver en ligne, @manhack, sur les réseaux sociaux, sur son blog Bug Brother au Monde et sur son émission 14h42 sur le site Arrêt sur Image. Toutes nos contacts sur Comme un bruit qui court.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Le Radio Fab Lab.
Donc, quelques petites minutes au fond de l'heure pour les bidouilleurs. On file à l'Open Bidouille Camp. C'est en ce moment à Arcueil, en banlieue parisienne. Ne perdons pas de temps.
Votre destination se trouve sur la droite.
Voilà, Arcueil, la vache noire.
Prendre la direction sud-ouest.
Ici, on est à l'Anigra pour l'Open Bidouille Camp 5, la cinquième version sur la région parisienne.
Alors, c'est voilà. Quoi exactement l'Open Bidouille Camp ?
Alors, l'Open Bidouille Camp, c'est un événement pour présenter tout ce qui se fait dans le monde de la bidouille, des hackers et des Fab Labs. Alors, l'Anigra, c'est une ancienne fabrique d'anis qui fabriquait l'anis gras.
Voilà, on y est, la grande fête de la bidouille. Open Bidouille Camp, la grande fête de la bidouille. Le 20 septembre 2014 à Anigra, le lieu de l'autre à Arcueil, 55 avenue La Place, RERB station La Place. Alors, Sabine Blanc, quelle est l'histoire de ces rencontres ?
Alors, l'histoire de ces rencontres, c'est, ça se passe à OVNI, c'était une soucoupe qui a disparu depuis. C'était un média interactif sur le net et on parlait beaucoup de hackers, de makers. Et à un moment donné, moi j'en ai eu un peu marre d'écrire, on s'est dit on va faire aussi. Et donc on a monté un premier Open Bidouille Camp, c'était en septembre 2012, ça fait 2 ans déjà, à main d'œuvre à Saint-Ouen. L'autre point de départ aussi, c'était ben, justement un papier que j'avais fait sur, que j'avais intitulé le DIY se boboise, avec le constat que...
Donc le DIY c'est le do it yourself, là.
Faites-le
vous-même. Ouais, ouais.
Voilà. Et avec l'idée que c'est pas forcément les gens qui avaient le plus besoin de tous ces nouveaux outils qui sont à disposition, qui y avaient accès. Donc on s'est dit on va essayer de faire quelque chose d'un peu populaire. Donc on s'est engagé à toujours être au-delà du périphérique. Pour le moment, on a tenu nos promesses. Donc là, aujourd'hui, on est à Nigra, à Arcueil, qui est un magnifique lieu. En plus, on a de la chance, il fait beau.
Alors, c'est quoi la philosophie ?
La philosophie, c'est partage, déjà, gratuité. On est assez non marchand, à part les cakes et les sandwichs. C'est l'amusement aussi, parce qu'on n'est pas là voilà, pour se prendre le chou, on est là pour s'amuser, autant les bénévoles que les gens qui viennent. Voilà. Et on espère garder cet état d'esprit longtemps.
Là, on va chercher les... On va chercher les bidons et les écrans dans ma voiture pour les amener sur le
Jerry. Alors c'est quoi ces bidons ?
Alors ces bidons, ce sont des bidons en plastique de 20 litres dans lesquels on met un ordinateur, une carte mère, une alimentation, donc de faire du réemploi. À l'heure actuelle, les filières D3E, déchets électroniques, électrotechniques. Donc ces filières-là, en fait, démontent le matériel pour le recycler, mais on sait très bien que ce ne sont pas des filières viables pour le développement durable. On justifie en fait des besoins pour les utilisateurs en les poussant de plus en plus à utiliser des machines récentes qu'ils n'ont pas besoin. Donc il y a une explosion de la demande. Et ce qu'il faut savoir sur Terre à l'heure actuelle, on est à l'ordre de 1,4 milliard d'ordinateurs, sans compter tous les nouveaux objets connectés, les tablettes, les smartphones.
Alors ça c'est un Jerry alors ?
Oui, ça c'est un Jerry, donc c'est un ordinateur qui est fait dans un jerrycan, c'est dérivé de jerrycan.
Ce qui est bien, c'est que c'est portable, quoi. Il y a une poignée, voilà. Quoi, comme dans tout bon jerrycan.
Voilà, ça c'est le côté très pratique, c'est que c'est portable. Et donc on a juste à prendre l'écran dans l'autre sac et puis on a tout ce qu'il faut pour faire une présentation.
Comme un bruit qui court.
Merci à Patrick du collectif Emabuntu et ses camarades du Jerry Clan. L'Open Bidouille Camp, c'est en ce moment à Arcueil, mais c'est que jusqu'à 18h. Aussi en ce moment et jusqu'à demain, à Gonesse, en Ile-de-France, s'est installée Alternativa,
festival itinérant des utopies concrètes, écologiques et sociales. Alternativa, à Gonesse, se mobilise notamment contre le projet de construction, par le groupe Auchan, d'un centre commercial et de loisirs gigantesque, Europa City, le plus grand d'Europe, sur des bonnes terres agricoles du Val d'Oise. Pour en savoir plus, une très bonne enquête dans Politis cette semaine, Europa City, encore un projet inutile. On y reviendra la semaine prochaine.
Comme un bruit qui court, que c'est Jérôme Chélius qui a réalisé cette émission, assisté de Karen Dehaye. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson et Alexandre Abergel.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur le site de franceinter.fr pour les références et les podcasts.
Quant à nous, on se retrouve samedi prochain à 16h, mais juste avant, vous allez retrouver Colin et Mauduit après le flash.